autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour une nouvelle infusion de science en compagnie de mes consoeurs et confrères de la presse scientifique, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans les mondes cachés de la Voie lactée, avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace qui nous rejoindra en fin d'émission pour écouter les tout premiers sons de Mars inouï recueillis par Persévérance. Mais avant cela, actualité oblige, nous nous interrogerons sur les nouvelles frontières de la guerre et comment la Russie les bouleverse avec Hervé Poirier d'Epsilon, entre cyberattaques, dissuasion nucléaire, missiles hypersoniques et drones sous-marins, on est mal paré, d'autant que notre cerveau est câblé pour réagir à ce qu'on appelle le biais tribal, une tendance à favoriser le groupe auquel on appartient au détriment des autres. Notre cerveau serait-il raciste? Question ouverte avec Cécile Estienne dans Cerveau et Psycho. Faudra-t-il pour autant nous augmenter avec de l'intelligence artificielle? L'IA pourrait-elle un jour remplacer les politiques? Autre question choc à la une de Science et Vie que nous aborderons avec Thomas Cavaillé-Foll. Toute ressemblance avec de futures élections n'étant pas fortuite et demain commençant aujourd'hui, nous nous arrêterons aussi sur les promesses du quantique, la révolution du 21e siècle avec Mathieu Novak dans Science et Avenir. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pourrez remporter ces magazines si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Bon entendeur, bienvenue. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, commençons par fêter l'arrivée d'un nouveau journal scientifique en swahili. Oui, en swahili. À Dar es Salaam, en Tanzanie, Syriacus Buguzi vient d'avoir l'excellente idée de lancer le premier magazine de vulgarisation scientifique en swahili, afin de toucher ses compatriotes peu à l'aise en anglais ou en français. Une belle initiative relayée sur Africa News dans le magazine de Barbara Longhi, Inspire Africa, Inspire Africa, extrait de l'interview de Syriacus Buguzi.
Ce que nous faisons, c'est essayer d'humaniser les histoires, d'humaniser la science. Dans notre première édition, par exemple, nous nous sommes intéressés à notre montagne, le Kilimandjaro, qui a perdu son glacier à cause du réchauffement climatique. Nous avons pensé que nous devions aller sur le terrain pour savoir ce que les gens pensent et s'ils se sentent concernés. Nous nous intéresserons donc à la participation active de la communauté à un tel processus scientifique. Et si les gens pensent que c'est quelque chose qui affecte leur vie, que pourront-ils faire à ce sujet?
Je me demandais aussi si vous n'aviez pas des difficultés à traduire certains termes scientifiques.
C'est un véritable défi, car le swahili est encore une langue en pleine évolution. Vous pouvez donc imaginer les étapes qu'il traverse. Ces étapes coïncident-elles avec l'évolution de la technologie? Évidemment non. Il y a des choses qui doivent être réglées pour que certains termes, comme l'intelligence artificielle, puissent être intégrés dans la langue.
Donc,
c'est un défi et l'une des choses que nous essayons d'aborder avec notre journal, c'est comment saisir cette opportunité pour que les experts linguistiques en swahili puissent être en mesure de corriger certaines barrières linguistiques pour que l'on puisse mieux communiquer la science aux gens.
Dernière question, Syriacus, quelle est votre ambition sur le long terme?
Mon ambition globale est de participer à cet effort croissant pour élargir l'accès de la science aux personnes qui n'ont pas accès à l'information. Il y a tellement de gens qui parlent les langues locales et qui n'ont pas accès à la science. Et cela ne concerne pas seulement les communautés qui parlent le swahili. Lorsque nous avons publié notre première édition, nous avons vu des réactions de la part des personnes en Éthiopie, en Afrique du Sud, qui ont dit qu'elles souhaitaient que cette initiative soit également disponible dans leur langue. En Zambie, des gens ont également dit avoir besoin d'un journal qui aborde les questions scientifiques dans leur langue. Nous essayons donc d'inspirer l'Afrique d'une certaine manière. Et le fait d'être invité ici pour parler de ce journal me donne l'impression que nous avons atteint notre objectif d'inspirer l'Afrique et le monde.
le premier journal scientifique en swahili lancé en Tanzanie par Syriacus Bouguzi à Dar es Salaam. Voilà qui a de quoi nous inspirer, effectivement, sur tous les continents, et on en a besoin en ce moment d'inspiration, d'aspiration. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, pour le meilleur mais aussi pour le pire, notre revue de presse scientifique s'ouvre avec le dossier d'Epsilon de ce mois d'avril, consacré aux nouvelles frontières de la guerre. À quoi faut-il s'attendre derrière, après la guerre en cours sur le terrain en Ukraine, face aux nouveaux déséquilibres du monde? Quelles armes aurons-nous, développerons-nous dans le cyberespace et jusque dans les fonds sous-marins, en passant aussi par l'orbite basse, avant d'ouvrir ce chantier un peu effrayant avec vous. Hervé Poirier, qui avait dirigé cet excellent dossier, allez, on se réchauffe un petit peu le cœur avec une reprise de Bella Ciao par une chanteuse ukrainienne, Kristina Soloviev, très populaire en Ukraine, écrivait des chansons d'amour. Et bien aujourd'hui, elle poste des chants de guerre révolutionnaires comme cette reprise en ukrainien de Bella Ciao, devenue fureur ukrainienne, composée et chantée depuis sa ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, sous les bombardements.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють, катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ, і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню.
Bella Ciao en version ukrainienne sur RFI par Kristina Soloviev, un clip visionné par plus de 780 000 personnes tout de même. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis l'Ukraine et jusque dans le monde entier, Hervé Poirier, vous avez consacré votre dossier et la une de votre mensuel Epsilon à la guerre. Alors je rappelle tout de même qu'il y a un hors-série qui sort d'Epsilon en même temps sur l'amour, avec une couverture rose. Bon, sur la guerre, évidemment, la couverture est en noir. La Russie bouleverse les frontières de la guerre, car derrière cette guerre en cours, et même pendant cette guerre en cours, la Russie, en Russie, se profile déjà aussi d'autres armes, et ailleurs également d'autres guerres, finalement, en préparation, que ce soit comment s'armer dans l'espace et jusque dans les fonds marins. À quoi faut-il s'attendre, Hervé Poirier?
Ouais, ce qui est frappant en un sens, c'est que la guerre en Ukraine actuelle a tous les contours et tous les aspects d'une guerre classique du XXe siècle, mmh. avec des bombardements massifs, de l'artillerie, des tanks, des ponts qu'on détruit, des blocus. Enfin, c'est une guerre classique, quelque part.
Traditionnelle.
Mmh. Sauf qu'elle ouvre, le chancelier allemand a dit que c'est une nouvelle ère. Ce n'est pas en Ukraine qu'on voit cette nouvelle ère, c'est finalement dans le rapport de force qui s'installe au grand jour aujourd'hui, mais qui est en préparation dans toutes les armées du monde, et tout particulièrement en Russie depuis l'arrivée de Poutine au début des années 2000, de cette nouvelle forme de guerre qui est une guerre plus ou moins froide, où derrière les enjeux des armes conventionnelles, des tanks, de l'artillerie, des fantassins, il y a le déploiement d'armes de rupture, d'armes stratégiques qui déplacent le conflit, non pas dans les frontières territoriales autour de Kiev ou autour, autour de l'Ukraine, mais qui impliquent tout le continent, le monde entier, les bas-fonds, le cyberespace, où c'est là que les nouveaux rapports de force entre la Russie et un bloc occidental qui s'est constitué, qui a pris des mesures de rétorsion principalement économiques, mais qui, derrière, il y a un conflit qui s'installe, qui a commencé en fait.
Qui a commencé et avec quelles armes? Alors, quelles sont ces armes du futur, mais qui sont déjà développées aujourd'hui, et en particulier par la Russie?
Alors, on connaît le niveau très élevé de la Russie en cyberattaque, en cyberarmes. armement, disons. Elle est considérée comme la troisième ou la quatrième puissance mondiale derrière la Chine, les États-Unis et l'Angleterre. Il y a depuis le 24 février un niveau d'alerte très élevé qui a été mis sur tous les cyberagences de sécurité qui se sont constituées depuis une vingtaine d'années, depuis l'émergence des infrastructures numériques qui sont des éléments éminemment stratégiques, mm-hmm. puisque c'est le fonctionnement de la société, mais des centrales nucléaires, des hôpitaux, de tout le système. Le système repose plus que jamais sur cette infrastructure. Donc la cyberguerre a été dès le 24 février au plus haut niveau d'alerte dans toutes les agences américaines, européennes, en attendant de voir. Et donc on a fait une longue enquête pour voir pourquoi est-ce que, apparemment, elle n'a pas encore été déclarée.
Oui, oui, oui.
A-t-elle déjà commencé ? Quel est le niveau d'expertise de l'attaque ? Quel est le niveau d'expertise de la défense ? Donc la guerre en Ukraine va sans doute continuer. On ne sait pas combien de temps. Mm-hmm. En tout cas, la cyberguerre et le cyber. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se défendre. Aujourd'hui, il y a eu des inquiétudes, par exemple, sur le fait que la Russie a fait un essai en été dernier de couper son Internet du reste du monde. C'était présenté pour se préparer à éviter des attaques. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça peut être aussi interprété comme est-ce que finalement, il serait pas tenté de faire exploser l'Internet mondial en continuant, eux, à avoir leur propre réseau. Bon, évidemment,
donc,
la paranoïa...
Il y a beaucoup de menaces, il y a de la paranoïa, mais il y a aussi d'autres formes de dissuasion, finalement. Au-delà de la dissuasion nucléaire, il y a d'autres formes de dissuasion aujourd'hui, ou de guerre froide, larvée, souterraine.
Tout se joue, en effet, sur des menaces. Ce sont des armes politiques qui n'ont pas obligatoirement vocation à être déclenchées, mmh. mais qui installent le rapport de force. Donc, il y a la cyber, le monde cyber qui est prégnant, le monde sous-marin. Il y a eu au XXe siècle pas une seule guerre qui se soit passée sans que les câbles de communication soient coupés. Donc tout le monde regarde aujourd'hui les milliers de kilomètres de câbles qui représentent 95% du flux des échanges dans le monde. Et on sait que la Russie a des moyens techniques avérés de destruction de câbles sous-marins.
Donc plus d'Internet.
Donc plus d'Internet mondial.
Et donc plus de fonctionnement,
même,
c'est ça.
Même si la résilience du réseau aujourd'hui est très très forte. Mmh. Mais la guerre sous-marine, tous les pays, la France aussi, développent des moyens de surveillance et de protection. Il y a aussi dans l'espace. La Russie a fait un test qui aujourd'hui est peut-être regardé avec un air différent sur une destruction d'un de ses propres satellites, mm-hmm. démontrant ainsi, les États-Unis, la Chine l'avaient déjà fait, leur capacité à détruire un satellite en orbite basse. Donc les Russes ont démontré ça il y a quelques mois. Donc dans les stratégies militaires, la dimension cyber est maintenant totalement intégrée. C'est-à-dire que est-ce que ça peut déclencher une riposte ? La réponse, tous les pays ont dit oui. Donc il y a des satellites espions, il y a des capacités de détruire le satellite. Évidemment, dans les conflits, c'est la surveillance qui est en jeu.
Donc on montre sa force partout.
On montre sa force partout.
Sous-marine, dans l'espace et même en orbite basse, puisque ça remet en jeu pas mal de programmes spatiaux aussi, cette guerre.
Absolument. Et la dernière dimension, là où la Russie a été sans doute plus audacieuse encore que les États-Unis, la Chine ou l'Europe, ce sont dans la mise au point d'armes de rupture, dont les missiles hypersoniques sont aujourd'hui les plus connus. Pour la première fois, il y a eu un missile hypersonique. Donc un missile hypersonique, c'est un missile qui va autour de Mach 20, Mach 30, 20 à 30 fois la vitesse du son, mm-hmm. et qui est capable, contrairement aux missiles balistiques, qui une fois qu'ils sont lancés, on sait à peu près où ils vont tomber, oui. celui-ci est capable de se déplacer, de changer de direction. C'est une sorte de planeur, mais qui va à une vitesse telle qu'aucun système de bouclier n'est capable de l'arrêter. Une vraie arme de rupture, et pour la première fois, il a été utilisé sur un champ de bataille en Ukraine pour atteindre des réserves souterraines de munitions et de carburant. Donc Poutine, l'armée russe, a fait de ce développement d'armes technologiques de rupture une exigence vitale presque pour la Russie. Donc ça a été très très haut dans le Poutine a toujours beaucoup poussé l'armée russe à se doter de ces armes que aujourd'hui on ne les a pas. Les États-Unis n'ont jamais réussi à les mettre au point encore. La Chine est bien avancée. La France travaille dessus. Mais c'est la Russie qui est la plus avancée technologiquement dans le cas des hypersoniques. Et voilà, ils ont aussi développé Alors là, les informations sont beaucoup moins claires sur des torpilles qui seraient capables de déclencher des tsunamis radioactifs sur les côtes. Les experts pensent qu'il y a une part, évidemment, de bluff. Ce sont, bien là sûr, encore, comme les bombes nucléaires après Hiroshima. Mmh. Elles ont été construites pour ne pas être utilisées, en un sens. Mais l'attitude de la Russie oblige aujourd'hui tous les pays du monde à revoir leur grammaire de la dissuasion. En particulier la dissuasion des armes nucléaires, leur utilisation est en train d'être réinterrogée et c'est toute une nouvelle logique dans ce qui est pour l'instant un nouveau désordre que chacun va essayer de remettre en ordre quelque part. Et donc c'est tous ces champs de cette nouvelle guerre qui, derrière le champ de bataille de l'Ukraine, est plus ou moins froide, hyper technologique,
à laquelle il faut se préparer, ou en tout cas il faut en être conscient, au moins il faut savoir qu'il y a cette que tout a changé
et qui a déjà commencé. Et qui a nous déjà sommes commencé. Déjà dans ce rapport de force, donc c'est ce que nous avons c'est cette enquête là que nous avons déployée suite au 24 février, le début de la guerre.
Passionnant, même si c'est effrayant, mieux vaut avoir les yeux ouverts sur ce qui nous attend pour savoir à quoi s'attendre. Justement, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce dossier impressionnant, Les nouvelles frontières de la guerre et comment la Russie les bouleverse et quelles sont ses armes de rupture. C'est à lire à la une et dans le dossier de Epsilon de ce mois d'avril dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question « Comment la science infuse ?» avant de se plonger dans notre cerveau pour y découvrir cette fois-ci les raisons, plus exactement les biais qui nous amènent peut-être à nous faire la guerre de toutes les manières possibles et imaginables, ça sera avec vous. Cécile Essienne, dans Cerveau et Psycho de ce mois d'avril, autour de la question « Notre cerveau serait-il raciste ?» De quoi s'interroger en écoutant un morceau malheureusement toujours d'actualité du grand Bob Marley, War sur RFI.
Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality.
Bob Marley sur RFI, War, pourquoi toujours, encore et partout la guerre, la montée des nationalismes. Vous êtes interrogée, Cécile Estienne, dans ce numéro de Cerveau et Psycho, autour d'une question qui a le mérite, comment dire, de mettre les pieds dans le plat de notre nature profonde, des biais de notre cerveau. Notre cerveau est-il raciste ?
Oui, en fait, nous avons concocté ce dossier il y a déjà quelques semaines avant la déclaration de la guerre et avant que le pouvoir de la chasse soit devenu la préoccupation première de cette campagne électorale, mais justement un moment où fleurissaient vraiment toutes ces questions identitaires dans la campagne.
Et donc, campagne électorale française avec montée et montée de l'extrême droite.
Effectivement, et donc on s'est demandé, du coup, la psychologie, la sociologie, les neurosciences avaient à dire sur le sujet, puisque c'est notre fenêtre à nous. Et qu'on constate bien qu'effectivement, le racisme, mais plus généralement le rejet de l'autre, le sexisme, l'homophobie, le communautarisme, sont quand même assez universellement répandus. Et voilà, et donc d'où ça pouvait venir. Et effectivement, il existe dans notre cerveau un biais tribal qui nous pousse à faire groupe et qui nous pousse par là, donc, à favoriser les membres de notre groupe et donc à rejeter les autres. Alors,
Notre cerveau est câblé pour se protéger, oui, et protéger les nôtres, en fait.
Il est câblé pour ça, enfin, c'est ce que disent notamment les chercheurs que nous avons interrogés, comme Laurent Beck-Schokland et le sociologue Michel Vévorka. Mais attention, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce que le cerveau est câblé pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Pas
c'est
du
ça.
Tout.
Hein. Au contraire.
Voilà.
Notre cerveau est plastique, hein, on peut
Et puis, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est un avantage aussi. Enfin, ça a aussi de bons côtés, comme souvent, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Voilà. En fait, si on se place d'un point de vue de l'évolution, l'homme est un singe nu, hein, on le sait bien. On n'a pas de dents, on n'a pas de griffes. Enfin, on a des dents, mais on n'a pas de gros crocs, on n'a pas de griffes, on n'a pas de carapace. Voilà, donc, et nous sommes des animaux sociaux, donc faire groupe est très important pour se protéger des prédateurs, est très important pour trouver à manger, est très important pour
survivre et pour le soin de l'humanité. Oui.
Donc, ça a des bons côtés. En plus, nous sommes une espèce vraiment très sociale et nous avons développé des compétences sociales extrêmement fortes. Nos cousins, les grands singes, par exemple, vivent comme nous en clan, mais c'est quelques dizaines d'individus. L'homme est capable de vivre avec quelques centaines d'individus, quelques milliers d'individus, quelques millions d'individus. Mmh. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous est assez propre, voilà, et qui sont liés aussi à une autre de notre capacité, qui est de partager notre imaginaire. Voilà. Un exemple le plus flagrant, je pense, c'est les religions. On peut se sentir proche de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, qui habite de l'autre bout du monde, parce qu'on partage les mêmes croyances. Voilà. Ben, vous trouvez ça dans plein d'autres choses. Mais alors,
donc, ça a un intérêt, ce biais tribal a un intérêt.
Ça favorise comme nous sommes tous différents, ça favorise la cohésion, ça favorise la coopération, et ça nous permet de faire de grandes choses, et des moins bonnes, de construire des ponts et des villes et d'accueillir des réfugiés. Et ça nous permet aussi de faire la guerre et de rejeter d'autres réfugiés.
Est-ce qu'une fois qu'on a un peu plus conscience ou qu'on sait justement qu'il y a ce biais tribal, vous dites que ce n'est pas pour nous déresponsabiliser, au contraire, est-ce que justement en prendre conscience peut permettre de dire je résiste un peu ou mon premier mouvement irait là, mais peut-être que je peux faire autrement?
Absolument. D'abord parce qu'on sait que ces biais sont ancrés vraiment chez nous. Les enfants très petits distinguent les gens qui ont un accent étranger, par exemple. Voilà. Et favorisent ceux qui ont le même accent que ceux qui les entourent, que même ne savent pas parler. Hein. Dès 6 mois, on montre ça. Ce qu'on montre aussi, c'est que en revanche, les catégories dans lesquelles on rentre les gens, enfin, le sentiment d'appartenance qui nous fait beaucoup de bien, qui fait du bien à l'estime de soi, on le sait très bien, hein, on peut tous le constater tous les jours, est aussi nourri des préjugés de notre société. Qui peuvent évoluer selon, selon l'époque, selon les endroits, selon la culture, selon la société, selon la pression économique. Évidemment, ça varie. On n'en est pas toujours très conscient. Il y a une expérience qu'on raconte dans ce numéro de Cerveau et Psycho qui est très intéressante. On fait une petite expérience et on fait associer aux gens, ils doivent appuyer sur des boutons, un bouton à droite, un bouton à gauche, et on leur fait associer le bouton de droite, par exemple, au mot gentil, et le bouton de gauche au mot méchant. On fait passer des animaux, des petits chats, des bébés phoques, et puis des lions et des serpents, et on leur dit qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. Et une fois qu'ils ont bien intégré que, par exemple, à droite c'est gentil, à gauche c'est méchant, après on leur fait passer des gens de couleurs différentes. Et bon, c'est une expérience qui avait été faite avec des gens qui étaient blancs. Et ils ont plus de mal. Et on leur dit, vous tapez à droite, si c'est noir, si c'est blanc, etc. Et si, par hasard, ils ont plus de mal, du coup, à associer le mot gentil à noir qu'à blanc. Et inversement.
Quand ils sont blancs et inversement.
Et inversement.
Parce que moins proche.
Parce que moins proche, voilà. Mais ça se joue à quelques centièmes de secondes, évidemment, de temps de réaction. Et quand on leur donne les résultats, souvent les gens sont très surpris. Ils ne se croient pas du tout racistes, ils ne pensent pas. Voilà.
Donc le fait de
c'est très alimenté par le biais social, là, pour le coup. Hein,
voilà, donc on peut l'alimenter autrement, on peut s'en rendre compte, et on peut peut-être sortir un peu de ce biais tribal. En tout cas, il y a de sacrées belles pistes de résistance. Hein. L'historien Michel Vévorka qui dit pour dépasser les fractures, il faut un récit commun. Et puis, vous revenez aussi, mais ça, il faudra le psycho sur notre tyrannie pour la hiérarchie, leader autoritaire de par le monde. Et là, on en revient à notre guerre. Mais il y a des pistes hein, pour faire autrement.
Il y a des pistes, notamment se connaître, connaître les autres, se rapprocher, même juste faire attention à ce qui se passe ailleurs. Déjà, ça fonctionne. Il y a des expériences, vous pourrez le lire dans Cerveau et Psycho, qui le montrent.
À lire absolument donc dans ce dossier très complet de Cerveau et Psycho, notre cerveau est-il raciste? Comment échapper à ce biais tribal? Des pistes, on l'a dit, dans Cerveau et Psycho que vous pouvez aussi gagner, chers amis auditrices et auditeurs. On n'est pas obligé de se chercher un leader président tout puissant ou qu'on soit sur la planète. D'ailleurs, nos dirigeants politiques seront-ils bientôt remplacés par de l'intelligence artificielle? Question ouverte à suivre dans Science et Vie avec Thomas Cavaillé-Foll. Juste après avoir écouté le président, celui de Pas-de-Calais et du super Mojo sur RFI, depuis Douala au Cameroun jusqu'à Lyon en France. Président Pas-de-Calais et le super Mojo sur RFI. Toute allusion à des élections en cours n'étant pas fortuite, vous ouvrez le dossier, j'ai envie de dire, dans Science et Vie de ce mois d'avril, Thomas Cavaillé-Foll, avec un titre étonnant, voté IA. L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour remplacer les politiques? C'est une question qu'il faut commencer à se poser.
Tout à fait. En fait, on voit déjà qu'il y a un désintérêt en politique, mais surtout, en fait, l'IA, c'est un mot valise, hein, ça oui. Explique toutes les technologies et tous les algorithmes qui tendent à mimer l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, par exemple. Et en fait, l'IA, elle est déjà en politique. On ne l'a pas vu arriver, mais elle est déjà dans tous les ministères un peu. Elle a déployé ses processeurs. Uh-huh. Voilà, par exemple, elle joue le rôle de procureur en Chine ou en France.
Bien sûr. Mais ouais. Même en France.
En France, oui, elle tend à cibler les fraudes fiscales. On l'a vu aujourd'hui, d'ailleurs, c'est tombé aujourd'hui une nouvelle qui montrait qu'elle, en analysant Google Maps, en fait, elle peut pointer les gens qui n'ont pas déclaré leur piscine, par exemple. Donc, en fait, il y a tout plein de...
C'est pas seulement les algorithmes, c'est vraiment toute l'intelligence artificielle,
qui a déjà un pas en politique. Et nous, à Science et Vie, on adore se poser des questions un peu folles et on se demande jusqu'où elle peut aller. Parce que, bien entendu, ces technologies-là, elles s'améliorent d'année en année. Et donc, par exemple, en 2016, elle avait déjà un petit boulot en politique. Elle a analysé les résultats du grand débat. Après, vous savez, le mouvement des Gilets jaunes. Et on a vu qu'apparemment, elle s'est un peu plantée. Il y a eu 2 millions de contributions en ligne, en fait. Et donc, les politiques, pour analyser ces 2 millions de contributions, ils ont fait appel à un système d'intelligence artificielle pour voir quelles tendances sortaient de ces contributions-là. Et elle a rendu quelques conclusions qui, apparemment, étaient un peu biaisées. Donc, c'est pas encore là, quand même, l'IA. Hein. Mais elle peut aller plus loin.
Enfin. Et jusqu'où peut-elle aller une IA présidente?
Alors, effectivement, ce boulot-là d'analyser un débat, c'est quand même un truc qu'on laisse peut-être parfois à un stagiaire ou quelque chose comme ça.
C'est ou en tout cas, c'est la puissance des algorithmes qui permet d'en tirer des conclusions. Mais est-ce que l'IA pourrait nous gouverner?
Alors, étonnamment, je vais vous parler d'un autre exemple. Ça, c'est aussi en 2016. Cette fois-ci, c'est un système qu'on appelle multi-agent qui essaie de recréer en fait un environnement. Et là, notamment, c'était le monde du travail. Donc, un système multi-agent, ça analyse toutes les tenants et aboutissants du monde du travail. Mmh. Et il s'appelle WorkSim, il est en France. Il a analysé, par exemple, les répercussions qu'aurait la loi El Khomri. sur, sur le monde du travail. Est-ce qu'il y allait avoir des embauches? Est-ce que ça allait faire baisser le chômage? Tout ça. Et ça, l'IA, elle a rendu sa conclusion. Elle a rendu sa conclusion en analysant un truc. Elle a dit que ça n'allait pas marcher. Et donc, personne n'a écouté, bien entendu. Et 4 ans après, les chercheurs se sont rendus compte qu'effectivement, ça n'avait pas marché. Donc, en fait, elle pourrait même tester les scénarios, prévoir des lois, des systèmes de lois, voir si ça va marcher sur le long terme. En fait, on commence à être dans ce système-là, quoi. Est-ce que peut faire l'IA, en fait? Elle peut analyser une énorme quantité de données et en prévoir soit des scénarios, soit des choses.
J'ai un lecteur... Est-ce qu'il faut lui faire confiance, justement, à l'IA? On pense évidemment aussi à la Chine, où on se rend bien compte que c'est une sorte de dictature un peu algorithmique ou artificielle.
Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, effectivement, tous les chercheurs qu'on a eus ont des idées très différentes sur l'IA en politique, mais ce qui ressort, c'est que... d'ailleurs, j'ai un lecteur qui m'a écrit à ce sujet-là, qui a fait une très belle phrase que je vais vous dire aujourd'hui. C'est un peu l'IA en politique, super, on peut lui faire confiance, mais comme j'ai fait confiance pour savoir, mais pas confiance pour savoir où j'ai envie d'aller.
Voilà,
l'IA en politique, ça va être une intelligence augmentée, en fait, pour une politique augmentée.
Et ne lui laissons pas toutes les rênes, quoi.
Ouais,
en fait,
mais
c'est ça
de toute
aussi,
façon,
hein.
Elle ferait n'importe quoi, l'IA. Enfin, vu qu'on la nourrit généralement avec des exemples qui sont déjà arrivés, qu'on la nourrit avec des choses qui sont déjà arrivées, si on essaie de lui donner... de l'originalité, c'est encore difficile à faire ça. Par contre, il y a autre chose, c'est prendre le contre-pied et laisser l'IA voter pour nous. Après tout, nous...
Laisser l'IA voter pour nous.
Oui, c'est quelque chose de très, très sérieux.
Moi, j'ai
vu
pas
qu'il
envie,
y a
hein.
des intérêts en politique, en fait, il y a des gens qui se disent peut-être que c'est plus simplement, on pourrait aider les gens. Et vous savez qu'un système informatique vous connaît mieux que votre collègue s'il analyse 5 de vos likes sur Internet. Il vous connaît mieux que votre conjoint s'il analyse 300 de vos likes sur Internet. Donc en fait, si on laissait une IA nous assister en politique, elle pourrait savoir pour qui voter, quand est-ce qu'une loi en particulier nous intéresserait, et on aurait une sorte comme ça de politique augmentée. Donc en fait, l'IA est en train d'arriver partout
de
dans le
grignoter.
Monde politique.
Bon, moi j'ai envie de dire quand même de ne pas laisser l'IA voter pour nous. Je préfère aller moi-même mettre mon bulletin dans l'urne en personne, en tant qu'humaine. Va-t-elle un jour remplacer nos politiques? Dossier carrément dystopique à lire dans Science et Vie de ce mois d'avril, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Vous aurez peut-être aussi la chance de remporter Science et Avenir de ce mois d'avril, qui consacre son dossier à la révolution quantique. Jusqu'où et que peut-on attendre des futurs ordinateurs quantiques dans tous les domaines? La révolution quantique du 21e siècle, à suivre avec vous, Mathieu Novak, juste après s'être un peu allé ressourcer, on va dire, avec Ruby Waters et sa musicale manière de nous embarquer dans ses quantum physics, à prendre à tous les sens du terme sur RFI.
Shame in yesterday. No time to really stop. No time to really stop. And I wonder if you'd stay through the crashing of the tide. But I guess it's all okay.
Quantum Physics, c'est la voix de Ruby Waters sur RFI, qui nous entraîne autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans la révolution quantique. Mathieu Novak, vous consacrez le dossier de ce mois d'avril, de Science et Avenir, à la recherche du qubit idéal, c'est ça, et aux pistes, et aux espoirs, aux recherches d'applications assez insensées, dévoilées par la possibilité d'avoir enfin ces fameux ordinateurs quantiques.
Oui, enfin, on en parle. Alors, D'après une pas seulement d'après une revue, mais en tout cas la revue Nature Reviews Physics avait dit cette année 2022, c'est les 40 ans de l'ordinateur quantique. On l'attend toujours, mais quand même, 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 40 ans, il y a le prix Nobel de physique Richard Feynman qui avait dit que pour bien décrire la matière, il faudrait un ordinateur quantique. C'est un ordinateur qui marche selon les principes de la physique qui régit la matière jusqu'au vraiment au plus cœur, au plus intime de la matière. À l'époque, c'était de la science-fiction. Et là, aujourd'hui, on en arrive à un stade où ces ordinateurs, ils existent déjà. Ils existent notamment chez IBM, ils existent chez Google. Ils sont pas encore, c'est pas encore pour demain que vous les ordonnez dans votre bureau.
On peut pas s'en servir nous, mais la technologie commence à exister.
Voilà, parce qu'en fait, tout le problème, et c'est là où je vais vous emmener peut-être un peu loin, c'est qu'il fallait transformer ce concept de l'ordinateur qui fonctionne avec ces unités d'information qu'on appelle le bit, c'est-à-dire qui marche soit par 0 ou 1, tout le langage informatique c'est un langage binaire, avec, on le transforme par un qubit, Q, la lettre Q, qui rappelle la physique quantique, enfin plutôt QU comme quantique, le qubits, et qui, eux, vont répondre à des principes de la physique quantique qui sont totalement contre-intuitifs et extrêmement complexes. Alors, je vais vous en citer deux qui sont fondamentaux. C'est la superposition, d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la superposition ? Ça veut dire qu'une particule, quand je dis une particule élémentaire, ça peut être un photon ou un électron, par exemple, elle peut être en même temps dans un état qu'on peut appeler 0 et en même temps 1, un petit peu de chaque.
Alors, l'exemple, un peu le chat de Schrödinger, vivant ou mort.
Exactement. C'est un peu, on a trouvé une analogie, c'est un peu comme si vous preniez une boîte qui était pleine d'humidité et vous dites, mais elle est où l'eau ? Elle est un peu partout, elle est un peu là, un peu là. Et en revanche, quand vous ouvrez la boîte, eh ben, tout se condense en une goutte et là, vous l'avez ici. Mais tant que vous avez la boîte qui est fermée, on est dans un état de superposition, on est en plusieurs états à la fois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, deux particules qui sont intriquées, c'est-à-dire que comme si elles étaient reliées par un fil invisible. Einstein disait « Ah, il y a une étrange action à distance qui se produit entre les deux. » Et dès que vous en modifiez une, l'autre va être modifiée exactement de la même manière au même moment. Donc, elles sont liées pour la vie. Et donc là, si vous prenez non seulement un qubit qui donc n'est pas lié seulement à être 0 ou 1, mais il peut être un peu des deux, déjà, vous explosez vos capacités de calcul, mais à chaque fois que vous en intriquez deux, vous avez, par exemple, avec deux qubits, vous avez déjà quatre états, et à chaque fois, vous avez deux puissances n dès que vous avez...
Donc la puissance est démultipliée.
La puissance explose.
Merci Mathieu, parce que je vais dire science et avenir, parce que franchement, comme explication, la superposition, l'intrication quantique, bravo. Et donc,
qu'est-ce que ça change ? C'est qu'il y a des calculs dont on disait, qui par exemple permettent de chiffrer... les codes de carte bleue, les codes de transactions financières en général. Ça repose sur des problèmes mathématiques, c'est-à-dire quand vous prenez des très très grands nombres et vous dites, ils sont décomposés en un produit de nombres premiers. Et c'est des problèmes qu'on sait résoudre théoriquement, mais si vous mettez ça dans l'ordinateur, on dit que ça prendra plus que l'âge de l'univers pour le résoudre.
C'est ça,
donc, sécurisé. Avec le quantique, et notamment pour, pour ce type de problèmes mathématiques, on a des algorithmes qui, de le temps infini, en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, en tout cas, toute la cryptographie actuelle vole en éclats. Donc on arrive à des puissances qui sont sans commune mesure. C'est pas comme si on avait chaque année le nouvel ordinateur. Non, on va changer d'univers. Et quand on change, là ça fait 40 ans qu'on développe ça, mais les industriels, ils pensent que c'est dans la décennie à venir,
dans ce monde quantique, une réalité, en tout cas en cryptographie ou dans certains domaines.
Dans certains domaines, alors il y en a d'autres. Il y a par exemple en médecine, on peut dire, en médecine, quand on cherche un médicament, on cherche une molécule qui va interagir soit avec une partie du corps humain, soit avec, par exemple pour le Covid, avec une protéine du virus. Et ça, c'est des choses c'est vraiment de l'interaction. Donc, il faut imaginer ces molécules en 3D et voir comment elles vont s'imbriquer, un peu comme une clé rentre dans la serrure. Quoi.
Et quand on y arrivera.
C'est très compliqué, mais quand on va y arriver, on va gagner des années de développement pour des nouveaux médicaments,
par
exemple.
Et on passera dans un autre monde. Alors, pour tout savoir sur le quantique, tout savoir, ou presque, sur le quantique, en tout cas, cette révolution du 21e siècle, dossier extrêmement complet et simple, génial, merci, à lire dans Science et Avenir de ce mois d'avril. Je signale aussi l'apparition du numéro de La Recherche, tout autre sujet sur la symbiose des réseaux du vivant, des magazines que vous le savez, nous demander par mail ou sur notre page Facebook et vous aurez peut-être la chance d'en recevoir un exemplaire. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse jusque sur Mars, ou plutôt depuis Mars jusque sur Terre. Je vous propose, avant de vous retrouver, Philippe Hénarejos, de Ciel et Espace, pour explorer les mondes cachés de la Voie lactée, carrément, de nous arrêter d'abord sur le son. Allez, le son du mois, le son de l'année, le son du siècle, le son du millénaire, je ne sais pas. Le son de Mars, enregistré par le micro de Supercam, les yeux et les oreilles du rover Persévérance sur Mars. Oula, il y a du vent sur la planète rouge. En tout cas, il y a du son audible à nos oreilles humaines. Ça, c'est un exploit, hein, Philippe Hénarejos.
Ben, c'est un son extraterrestre, l'un des premiers. Et, bon, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde sur Mars, du coup. Hein, ça fait,
mais
il y a du vent. Il y a quand même du vent. Il y a du vent qui est notamment amplifié par moments, par des petites tornades qui soulèvent de la poussière. C'est à peu près tout à ce à quoi il faut s'attendre.
Alors, en tout cas, on peut remercier la technologie française. Hein, un petit coup de cocorico, ça ne fait pas de mal. Puisque Supercam, les yeux et les oreilles de Persévérance, a été conçu par Pernel Bernardi, que nous avons reçu récemment, et piloté par Sylvestre Maurice, que nous recevrons bientôt. Mais pour l'heure, autour de la question, comment la science infusée se diffuse jusque dans la Voie lactée? Ce sont les mondes cachés de la Voie lactée que vous allez nous faire découvrir dans Ciel et Espace. Philippe Hénarejos, on y arrive juste après être passé par la Milky Way version IO sur RFI.
Fly over the roofs. We'll kiss the moon, dance with the stars, and ride a satellite. Tonight we'll climb up into the sky. We'll skate along the Milky Way and build our own half pipe. Tonight, tonight, tonight. I'm scared to sleep. I need for you to sleep with me. 'Cause when I close my eyes, I see things that I don't like. Tonight we'll fly over the roofs. We'll kiss the moon, dance with the stars, and ride a satellite. Tonight we'll climb up into the sky. We'll skate along the Milky Way and build our own half pipe. Tonight, tonight, tonight.
Cette nuit dans la Voie lactée, avec un petit clin d'œil à tous nos amis astronomes amateurs sur le continent Milky Way, signé IO sur RFI. Et jusque dans les mondes cachés de la Voie lactée, ça c'est avec vous Philippe Hénarejos dans Ciel et Espace. Alors quels sont ces mondes cachés, magnifiques, hein, ces myriades d'astres sombres qui errent dans notre galaxie? Vous avez mené l'enquête dans Ciel et Espace.
Oui, on a consacré un dossier d'une vingtaine de pages à ces mondes cachés. Ça fait des années que les astronomes découvrent des astres comme ça, errants. C'était la définition de planète en fait au départ. Et ça tombe bien parce que ce sont des astres qui sont de masse planétaire. Donc, grosso modo, ce sont des Jupiters qui se baladent loin de toute étoile à travers la galaxie.
Sans soleil, qui n'ont pas de soleil.
Qui n'ont pas de soleil. Et donc, du coup, on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très sombres. Ils sont éclairés par rien du tout. Il faudrait des télescopes très puissants. Ce qu'on a ne suffisent pas. Et fin 2021, il y a eu une découverte en... Comment dire, un joli coup de filet d'une équipe d'astronomes qui a regardé une région de formation d'étoiles et qui a mis la main sur... Alors, c'est vague, c'est entre 70 et 170 de ces astres parce qu'il y a des incertitudes sur les masses, donc peut-être certaines n'en sont pas. Comment ils ont fait? Ils ont observé une région de formation d'étoiles où les astres sont jeunes. Et donc, quand ils sont jeunes, ils viennent se former, ils sont encore très chauds. Et donc, ils rayonnent. Et on les voit, même quand ils sont très peu massifs. Ils rayonnent notamment dans l'infrarouge. C'est comme ça qu'on les voit. Et cet échantillon est quand même représentatif. Jusque-là, il y en avait qui étaient connus un peu, qui étaient épars. On n'était pas sûr.
Ce qui voudrait dire qu'il y en a beaucoup.
Ça veut dire qu'il y en a énormément. Ah, il y en a des milliards qui se baladent. Wow. Regardez, le plus proche qu'on connaît, alors celui-là, il est froid, mais il est proche, donc on le voit un peu. Un peu plus de 7 années-lumière. C'était le troisième système, si on peut appeler ça comme ça, le plus proche de la Terre après Alpha du Centaure et je ne sais plus laquelle, il y en a une autre, Wolf 300-424 ou quelque chose comme ça. Et donc c'est très près. Et les astronomes prédisent avec ce coup de filet que dans un rayon de 4 années-lumière, on doit en trouver des dizaines.
Alors, c'est pas étonnant. Ça ouvre quand même, sur d'autres.
Sur d'autres perspectives.
Des astres errants, des planètes sans soleil.
C'est ça. Alors, il y a la question qui se pose, comment sont nées ces planètes? C'est-à-dire, quelle est leur origine? Est-ce qu'elles ont été éjectées de systèmes en formation? On imagine, par exemple, que dans la formation du système solaire, celui qu'on connaît aujourd'hui, il n'a pas toujours été celui-là. Il y a probablement, peut-être, une grosse planète qui a été éjectée. Donc, nous aussi, on a produit un de ces astres errants, peut-être. Les modèles théoriques montrent que c'est possible, en tout cas. Donc, c'est une origine possible. L'autre origine, c'est tout simplement des astres qui se forment comme des étoiles par effondrement gravitationnel de nébuleuses, mais qui ne sont pas assez massifs pour briller et qui ne sont même pas assez massifs pour faire ce qu'on appelle des naines brunes, qui sont ces fameuses étoiles ratées qui ne brillent pas. C'est en dessous de 13 fois la masse de Jupiter. Donc, clairement, ce sont des objets de masse planétaire. Mais ce dossier, on l'a élargi aussi. On a découvert des trous noirs.
Mais c'est ça, un trou noir errant dans notre galaxie.
Le trou noir, alors là, pour le coup, on sait qu'il ne fait pas de lumière. Mais pour les détecter, on les voit par lentille gravitationnelle quand ils passent devant d'autres étoiles. On en a repéré un, qui n'est pas très loin. Il y a aussi des étoiles qui sont éjectées de la galaxie, qui se retrouvent au milieu de l'espace intergalactique, loin de toute ville, en quelque sorte.
Oui, c'est terrifiant.
Et puis, rappelez-vous, il y a des objets beaucoup plus petits. Il y a le fameux astéroïde interstellaire Oumuamua.
Qui nous est passé pas loin, mais oui.
Des objets comme ça, il y en a partout. C'est tout un univers qui existe.
Et est-ce qu'il y a vraiment une planète fantôme
Et ça, c'est la dernière question qu'on pose.
La planète neuve de notre système solaire.
Et vous savez que ça fait quand même peut-être une décennie ou plus qu'on la cherche. Les astronomes étaient convaincus qu'elle était là, qu'il y avait peut-être une planète très très loin, au-delà de Pluton. Pour l'instant, elle ne la trouve pas. Elle est peut-être en train de s'évanouir. Elle reste fantôme. Et celle-là, pour le coup, elle reste cachée.
Les mondes cachés, fabuleux. Hein. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. De la Voie lactée à découvrir, quand même, entre science et science-fiction, dans le dernier numéro de Ciel et Espace. Disponible en kiosque, bien sûr, en kiosque. Et vous pouvez aussi gagner en nous écrivant par mail ou sur notre page Facebook, chers amis auditeurs et auditrices, en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs. Merci Philippe, merci Mathieu, merci Thomas. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle infusion de science. En attendant, rendez-vous dans d'autres mondes cachés ou invisibles, plutôt si vous êtes à Paris. Chers amis auditrices et auditeurs, ou de passage à Paris ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 avril, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, c'est la 5e édition de L'Ethnologie va vous surprendre. 2 jours et 2 soirées de débats, conférences, rencontres consacrées cette année au thème de l'invisible, carrément, quand anthropologues, ethnologues, mais aussi artistes partagent leurs approches, leurs rencontres avec l'invisible, du Japon jusqu'au Cameroun, en passant par l'Inde, Cuba ou le Grand Nord canadien, de la divination jusqu'aux fantômes, sans oublier la magie et même l'invisibilité sociale, et oui, ça existe aussi. L'Ethnologie va vous surprendre, et dans le bon sens en plus, ce samedi et dimanche, 9 et 10 avril, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'invisible se dévoile un peu. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi pour le 2e volet de notre série Global Africa, du nom de la première revue scientifique panafricaine et multilingue, lancée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Autour de la question, pourquoi compter avec et sur la recherche africaine. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Go Musique et RFI Talent présentent Abdoulaye Ndergué en concert.